Vous écoutez RTL.
11h30, midi et demi, Philippe Bouvard sur RTL avec vous au 3210 et toutes les questions que vous voulez lui poser dans Allô Bouvard. Bonjour Philippe.
Bonjour Virginie, bonjour vous tous. Alors bon, les questions du dimanche, hein, faut quand même qu'elles soient un peu plus badines. Mais d'un autre côté, comme ça va être bientôt les vacances, il ne faut pas laisser tomber les questions sérieuses. Alors, je suis à votre disposition.
Et voici votre premier auditeur, Philippe, au 3210, c'est Grégoire, qui est commercial à Bordeaux.
Soyez le bienvenu. Bonjour Grégoire.
Merci, bonjour Philippe.
Alors, quelle question ?
Ma question concerne notre ancien président. Elle serait de savoir quelle mission confiée à François Hollande depuis son départ de l'Élysée.
Oui, alors bon... Peut-être qu'il faut qu'il prenne un peu de repos, parce que pendant 5 ans, il a été à la manœuvre quasiment tous les jours. Hein. Bon, alors, il a une bonne retraite. Il a même plusieurs retraites. Hein. Bon, enfin, c'est normal, parce qu'il a occupé plusieurs emplois dans la vie politique. Et donc, il peut voir venir l'avenir tranquillement et profiter un petit peu de ses retraites. Peut-être que vous trouvez qu'il touche trop, non ?
Mais en fait, c'est là exactement la réflexion que je me faisais. Je crois que le salaire brut d'ancien président, c'est 6 500 et quelques euros par mois. Mais la réalité, c'est qu'un ancien président coûte près de 3 millions d'euros par an aux contribuables.
Oui, enfin, attendez. Hein. Alors d'abord, remarquons, parce que bon, on a dit beaucoup de choses sur le pauvre Hollande, mais il faut quand même lui rendre justice de temps à autre. Il a pris un décret au terme duquel les avantages des anciens présidents sont limités aux 5 premières années de leur retrait. Bon, alors, bon, vous me direz que ça coûte déjà cher pendant 5 ans. Mais alors ensuite, ils n'ont presque plus rien. Bon, et puis, attendez, ils ont quand même rendu des services à l'État. Alors, moi, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez à l'employer et à employer ses compétences, qui sont quand même très larges. Vous cherchez, est-ce qu'il ne s'embête pas trop dans son nouvel État ? Non ?
Ben, moi, je cherche à avoir une approche plutôt comptable, c'est-à-dire qu'il y a un coût d'un côté. Qu'est-ce qu'on met comme revenu en face, quoi ?
Alors, il y a quelque chose qu'on ne peut plus lui confier, c'est un poste de conseiller constitutionnel. Parce que jusqu'à il y a quelques jours, les anciens présidents de la République étaient au conseil constitutionnel à vie après leur mandat. Et aujourd'hui, ils n'en feront plus partie, sauf Giscard qui était là avant. Alors bon, ben, j'imagine qu'on ne va pas le pousser dehors, hein. Mais donc Hollande avait dit d'ailleurs qu'il n'était pas intéressé par le poste. Mais il n'a même plus à le dire puisqu'il n'a plus le poste aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut lui faire faire ?
Bon, il lui reste l'option des conférences. Je crois que Nicolas Sarkozy facture jusqu'à 200 000 euros par conférence. C'est
oui,
très correct.
Alors surtout que si on lui donne cette somme rondelette pour une conférence, on en aura pour son argent parce que comme il parle plus lentement que les autres, au lieu que ça dure une heure, ça durera une heure et demie, et bon, peut-être que ça justifiera des tickets plus chers. Alors ensuite, s'il veut être comme Giscard à l'Académie française, il n'a qu'à publier. Bon, il n'a qu'à publier, je ne sais pas moi, un dictionnaire amoureux de Julie Gayet, par exemple. Bon. Des souvenirs, ou bien alors, pourquoi il ne ferait pas, parce que c'est à la mode, un one-man show, un stand-up, comme on dit, hein, il monterait sur scène, et puis, je ne sais pas, un petit spectacle sympa qui s'intitulerait « Le soir, j'allais rue du cirque ». C'est rien, mais je veux dire, il y aurait du public, là, hein, parce qu'on aime bien l'indiscrétion, mais quand c'est l'intéressé qui les commet, on apprécie davantage.
Tout à fait.
Grégoire et Philippe ont fait une pause dans Allô Bouvard et on vous dit à tout de suite sur RTL. Jusqu'à midi et demi, c'est Allô Bouvard sur RTL et vous revoici Philippe Bouvard en compagnie de Grégoire, un auditeur de Bordeaux, avec qui vous parliez juste avant la pause de la nouvelle mission de François Hollande.
Qu'est-ce qu'on peut lui donner encore ? On pourrait peut-être en faire le guide du fameux circuit à Tulle, vous savez, dans l'euphorie. de très courte durée, je crois que ça a duré une semaine, qui a suivi son élection, la ville de Tulle, dont il a été très longtemps le maire, avait organisé un circuit touristique sur les différentes étapes de son élection. C'est-à-dire, on le voyait, son bureau à la mairie, puis on passait dans la brasserie à côté de la mairie où il mangeait sa blanquette à l'ancienne en lisant l'écho de Tulle, parce qu'il avait une vie passionnante. Hein. Et puis ensuite, on allait sur la place publique où il a fait sa première déclaration quand on lui a dit qu'il était élu chef de l'État. Voilà. Alors ça fait partie des possibilités, mais il faut quand même lui donner quelque chose qui soit en rapport avec ses compétences et puis avec sa stature internationale.
Hein. Et sa crédibilité. François Hollande sort de l'Élysée avec 78% d'opinions défavorables. Comment est-ce que vous faites des conférences avec un taux pareil ?
Attendez, ça laisse quand même 22% de gens qui peuvent assister à cette conférence.
Dont beaucoup à Tulle, probablement.
Oh, c'est pas sûr, parce que finalement, les élections à Tulle lui ont pas été très favorables, hein, ensuite. Non, je crois qu'il faut d'abord qu'il concrétise la négociation immobilière qu'il a engagée, et pas loin de la ville de Tulle. Alors, il a trouvé une maison, 200 mètres carrés habitable, hein, avec quatre chambres, avec un beau balcon, 7000 mètres de terrain, pas de vis-à-vis. Bon, donc, si vous voulez, les reporters de Closer seront obligés de descendre dans un petit hôtel un peu plus loin. Ensuite, c'est certainement très tranquille. Et alors, pourquoi pas faire une bibliothèque François Hollande comme il y a une bibliothèque François Mitterrand ? Mais
exactement. Il faut chaque président a à cœur de laisser, laisser une marque. Donc,
comme lui, il lit pas beaucoup, on mettrait des mots croisés, des grilles de sudoku, on mettrait... On peut très bien mettre des BD, hein. C'est pas infamant, hein, la BD. Absolument. Ensuite, plus sérieux, qu'il se voue à l'humanitaire et au solidaire. Or, vous savez, il a créé une fondation. Et il pourrait vraiment en prendre la direction et l'animer personnellement. C'est une association pour aider les jeunes actrices de cinéma dans le besoin, qui a fait beaucoup de bien, hein, et notamment dans le logement nocturne, parce qu'il y avait un toit pour chaque jeune fille. Donc, vous voyez, notre ancien président, il va être très heureux, beaucoup plus heureux, hein, parce que... On se moquera plus de lui comme avant, sauf aujourd'hui.
Oui, à part aujourd'hui. Mais il a aussi beaucoup, beaucoup voyagé, François Hollande, et plus que ses prédécesseurs. Il a 200 voyages officiels, 77 pays différents. Peut-être qu'il pourrait aussi ouvrir ou écrire un guide de voyage ou relater ses voyages présidentiels. Pourquoi pas ? Parce qu'il se répand quand même pas mal. Je pense que
Quand
on lui demande en général...
Une idée me vient pour terminer. Et si on lui demandait d'être le réanimateur du Parti socialiste, son ancien parti qui en a bien besoin, surtout que lui qui est un spécialiste du bouche-à-bouche. Bon, eh bien, mon cher Grégoire, souhaitons quand même un bon repos à Hollande.
Absolument.
Parce qu'on a pu dire tout ce qu'on voulait lorsqu'il était en activité. Et je remarque que pour quelqu'un qu'on accusait d'être mou, il a quand même fait beaucoup de choses et pas toujours ce qu'on souhaitait.
C'est ça.
Merci Grégoire.
Philippe. Au revoir.
Avec nous au standard d'Allo Bouvard sur RTL, Jean-Michel qui habite à Orléans. Et Jean-Michel est un ancien professeur d'histoire.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Philippe, vous allez bien ?
Bien. Alors, oui. De quoi souhaitez-vous que nous parlions ?
Eh bien, écoutez, je suis comme beaucoup de Français, je lis la presse régulièrement, et il y a un sujet qui m'a un peu interpellé là récemment, c'est le problème de l'intersexualisation et du sexe neutre qui en découle. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette situation qui touche beaucoup de pauvres gens.
Alors, bon, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect médical, important. Il y a un aspect juridique, il y a un aspect social. Bon, moi, je pense qu'il faut savoir à qui on a affaire. Bon, et que peut-être que le sexe neutre y aide. Alors, est-ce que vous savez quelle est la définition du sexe neutre ?
Disons, c'est naître d'une ambiguïté sexuelle.
Ah oui, complète, parce que à la naissance et parfois tard dans la vie, on ne sait pas si on a affaire à une fille ou un garçon. Donc si vous bousculez quelqu'un qui a le sexe neutre quelque part, dites pardon, monsieur, dame, c'est plus poli.
Bon. Ensuite, on voit bien là votre humour.
ensuite, faut pas confondre avec l'hermaphrodisme.
Oui.
L'hermaphrodisme est celui qui, alors là, abondance de bien ne nuit pas, qui a deux sexes au lieu d'un. Bon,
c'est-à-dire que... Il faisait la radio lui-même. Pierre Dac qui disait ça.
Avant de partir le matin, il tire au sort pour savoir s'il s'habillera en fille, s'il s'habillera en garçon, ou s'il mettra un habillement neutre, parce que ça existe aussi. Alors, bon, pour répondre à votre question, la Cour de cassation, qui est notre plus haute instance, a refusé la neutralité sexuelle. Elle a refusé. Elle a dit que ça compliquerait beaucoup. C'est drôle, aujourd'hui. Toutes les décisions qui sont prises en haut lieu sont assorties de ce petit couplet. Nous ne voulons pas compliquer la vie des gens et des entreprises. Ils ont mis un moment quand même.
Oui.
Alors,
quelques siècles.
C'est vrai que ça crée, sur le plan juridique, des problèmes nouveaux et pas facilement traitables. Ensuite, y a des pays où c'est totalement permis. Si vous allez en Australie, aucun problème, vous demandez la neutralité et vous l'avez. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les Suisses, qui ont fondé leur prospérité et leur histoire sur la neutralité, n'acceptent pas le sexe neutre.
Oui, d'accord.
Voilà.
OK.
Naturellement...
Mais le risque, ça serait qu'on crée un troisième sexe ou qu'on parle de troisième sexe pour ces gens-là ou... Non.
Oui, mais parce que attendez, là on traite ça un peu légèrement, mais c'est un problème grave pour ceux qui sont concernés.
Mm-hmm.
Bon, et c'est quelque chose qui est difficile à porter dans la vie quotidienne, surtout qu'il y a un enfant sur 100 000 en France qui naît avec des organes sexuels qu'il faut bien qualifier de déficients. Par exemple, le micropénis. Vous ne saviez pas ce que c'est que le micropénis ? Bon.
J'imagine.
Oui, alors naturellement, le micro de la radio n'a rien à voir là-dedans.
Non.
Faut pas tout mélanger. Ouais. Le micropénis, c'est un pénis qui est plus petit que la normale. Bon. Et puis, alors, vous avez le vagin miniature. Bon, alors, il y a un goût pour la miniaturisation, mais qui épargne les organes sexuels. C'est plutôt le contraire. Voilà.
D'accord.
Donc, les gens qui se trouvent dans cette situation sont des gens qui sont socialement isolés et qu'il faut quand même protéger. Voilà. Alors, on vote pour que la Cour de cassation reviennent sur l'accord, ou bien on dit il vaut mieux que chacun se débrouille comme il peut.
C'est difficile, c'est très difficile.
difficile. Vous connaissez personne de toute façon dans ce cas-là.
Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des enfants normaux sans aucun problème.
Ah oui, parce que vous avez raison de parler des enfants. Les gens qui ont un sexe neutre sont des gens qui n'ont pas de facultés reproductives.
De se reproduire,
oui. Quelquefois, ça leur épargne des ennuis. Hein. Cette ambiguïté, elle peut, dans les carrières artistiques, être un atout. Hein. Mais alors, si, par exemple, vous vous retrouvez mannequin chez Michou, on verra d'un bon œil que vous soyez. Mais alors, à ce moment-là, on emploie d'autres mots. Transgenre, par exemple.
Oui, oui.
Vous connaissiez ça, transgenre ?
Transsexuel, transgenre.
Ah, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Alors, naturellement, tout ça n'est accordé dans les autres pays qu'après une visite médicale minutieuse. Et parce que y a eu une directive européenne. Pour les membres, c'est le mot qu'ils ont employé, les membres de la communauté. Et ça a été tranché, pardon, c'est peut-être pas le mot qui convient, ça a été tranché dans un sens de la neutralité, c'est-à-dire que les gouvernements n'ont pas voulu prendre parti, comme d'habitude. Hein, voilà.
Oui.
Alors on attend l'avis de M. Trump, hein, qui...
Sûrement, oui.
Ah, il a sûrement un avis.
Un avis déterminant. Ouais.
Sûrement un avis, et comme d'habitude, il le partage. Je vous souhaite de bonnes vacances, hein, Jean-Michel.
Merci beaucoup.
Et puis félicitons-nous de ne pas avoir ce genre de problème. Parce que on en sourit comme ça, mais c'est vraiment très lourd à porter.
C'était pas méchant. Au revoir, Philippe, merci.
Au revoir, Jean-Michel. Le coup de fil de ce dimanche, qui est le jour des bonnes lectures et aussi de la culture à domicile, à Madame Karine Girac-Marinier. Bonjour, Madame.
Bonjour, Monsieur Bouvard.
Alors, vous êtes directrice du département dictionnaire et encyclopédie chez Larousse, et on parle déjà de l'édition 2018. C'est dire que vous n'êtes pas en retard, surtout par rapport au Beaujolais nouveau. Hein.
Tout à fait. Effectivement, on est en avance, c'est vrai. Mais c'est important qu'on arrive avant l'été parce qu'en fait, pour les dictionnaires, beaucoup de Français font leur achat pendant l'été pour préparer la rentrée notamment. Donc du coup, il est important que les dictionnaires de langue française puissent paraître au courant du mois de juin.
Alors c'est chaque fois une curiosité que de découvrir à travers une nouvelle édition les contemporains que vous avez jugés susceptibles de figurer dans les noms propres et les mots nouveaux, enfin qui n'avaient pas accès au dictionnaire jusque-là, et qui généralement révèlent des phénomènes de société.
Tout à fait. C'est vrai que c'est toujours une belle surprise. Alors pour nous, c'est très important dans la partie des noms propres, effectivement, d'intégrer de nouvelles personnalités qui ont marqué.
Alors par exemple, on voit que vous avez admis Monsieur Macron qui ne figurait pas dans la précédente édition.
Tout à fait, mais ça fait partie des mises à jour fondamentales dans le dictionnaire. Le président de la République est obligatoirement dans le dictionnaire.
Et c'est d'ailleurs sauf que généralement, il est déjà dans le dictionnaire quand il est élu président.
Tout à fait.
Bon, donc c'est simplement la confirmation qu'il a eu une accélération de notoriété pas ordinaire.
Du fait des élections, tout à fait.
Bon, alors, il y a d'autres personnalités ?
Oui, Jean-Christophe Ruffin, académicien, qui rentre cette année au Petit Larousse et qui nous fait l'honneur d'être le parrain du Petit Larousse. On a également l'écrivain Alain Mabankou. On a la danseuse étoile et directrice du ballet de l'Opéra de Paris, Aurélie Dupont, la soprano Patricia Petitbon, le chef Bernard Pacot, également deux acteurs, Catherine Fraud et puis Christian Heck, qui fait partie de la Comédie française, et puis un réalisateur, Olivia Sayas.
Bon. Bon, alors, c'est votre choix personnel ou il y a un comité ?
Il y a un comité. Nous sommes très nombreux à élire ces nouveaux entrants. Nous sommes en une trentaine de personnes à élire ces nouveaux entrants chaque année.
Alors, quand il s'est agi de choisir des noms, des mots, alors ça a été plus difficile. Et je dois dire que je ne connaissais pas la plupart de ces 150 nouveaux mots qui figurent dans l'édition 2018. Hein. Enfin, il y a des mots qui sont presque des mots corporatifs, professionnels. Hein.
Pour certains, et y a des mots en fait, qu'on a entendus, mais dont on ne connaît pas forcément le sens. Par exemple, on parle beaucoup dernièrement du continent de plastique, donc on a trouvé important de le définir dans le Petit Larousse. Vous savez, c'est ce continent qui est... Enfin, ce n'est pas un vrai continent. C'est un continent qui est fait à partir des plastiques que nous n'arrivons pas à faire disparaître. Et cet espace, en fait, fait 5 fois le territoire de la France. Donc c'est énorme et c'est un vrai problème de société et d'écologie.
Bah, ça fera plaisir à Monsieur Hulot, ça.
Oui, c'est un problème, effectivement.
Un mot qui, pour moi, est complètement nouveau, mais vous me direz que j'appartiens à une vieille école qui a dû laisser passer quelques trains, c'est le mot « hipster ».
Ah, les hipsters.
Jamais entendu, hein, jamais.
C'est vrai ?
Ah non, jamais.
Alors, c'est un mot qu'on rencontre énormément, beaucoup dans la presse, voilà, beaucoup dans les médias. Effectivement, c'est un mot alors qui est apparu il y a déjà 4 ans hein, et qu'on a fait rentrer que cette année au Petit Larousse parce qu'il nous a semblé important de le définir parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Enfin, beaucoup de gens entendent ce mot, mais n'en connaissent pas bien le sens. Donc, il nous a paru important de
définir. Alors, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, c'est des jeunes citadins qui sont plutôt branchés et qui ont la particularité à la fois d'aimer beaucoup les produits bio et en même temps d'être très adeptes des nouvelles technologies.
Ah ouais. Alors, c'est pas un bobo, c'est pas un 48-art.
Non, voilà, c'est un peu un mélange de
c'est
différents...
C'est pas un 68-art, pardon.
Non, voilà, c'est un mélange de plusieurs types, à la fois de citadins, mais un petit peu agricole, parce que quand même, il aime beaucoup tout ce qui est bio. Voilà, c'est une personnalité un peu intrigante.
Alors, également une nouveauté pour moi, disruptif.
Oui, alors c'est un mot très important, effectivement, ce disruptif, parce que il signifie, il signale une rupture dans un secteur d'activité. Donc ça peut être en économie, ça peut être en science, quelque chose de disruptif va venir vraiment révolutionner un domaine. Et donc, on l'a vu cette année, notamment avec le phénomène qu'on a fait rentrer également d'ubérisation.
Oui, j'ai vu. Alors l'ubérisation, oui. Bon, ça va. La déradicalisation, bien, j'avais lu ça dans les journaux. En revanche, j'avais jamais vu. Alors, c'est un néologisme dont je m'interroge sur la composition. L'infobésité.
Eh oui.
Qu'est-ce qu'il y a eu cette idée biscornue ?
Ah bah écoutez, je ne pourrais pas vous dire. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'a beaucoup vu. On a vu que ce mot était utilisé de plus en plus par une majorité de Français. Et il est effectivement, sa formation est très intéressante. Hein, il est formé avec sur information et obésité. Et donc, ça signifie la surabondance d'informations. Et donc, c'est un mot qui est vraiment très novateur, effectivement, et intéressant.
Alors, moi qui lis toute la presse et qui écoute RTL toutes les heures, je suis un infobèse.
Oh, pas forcément, non. Ça veut dire, c'est plutôt, vous voyez, le fait d'avoir une surabondance au quotidien d'informations via Internet, via les nouvelles technologies. C'est plutôt ça que ça désigne.
Bon, ben écoutez, je peux dire que grâce à vous, j'ai pas perdu mon temps en ce dimanche. Merci beaucoup, Karine Girac-Marinier. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
La première partie d'Allo Bouvard va laisser sa place à l'info et vous retrouverez Philippe Bouvard dans un instant et toutes les questions posées au 3210. Sur RTL, on accueille un nouvel appel dans Allo Bouvard, celui de Monique Damien qui est professeur de marketing en BTS, Philippe.
Bonjour Monique.
Bonjour Monsieur Bouvard.
Oh, bon,
mes hommages.
Oh, écoutez, pas de monsieur, pas de patronyme non plus, on s'appelle par nos prénoms et puis bon, c'est plus... De toute façon, on va quand même bavarder tête à tête. Moi, je bavarde pas tête à tête avec des gens qui me disent monsieur parce qu'ils me prennent pour un vieux. Mais je suis vieux d'ailleurs, hein, voilà.
Je vais vous demander comment vous préparez vos vacances.
Alors, d'abord, c'est une période extrêmement importante de l'année. Et ensuite, ça fait beaucoup plus d'un mois, bien que ce soit souvent, parce que les gens aujourd'hui fractionnent leur congé, le gros morceau de l'été. Parce qu'il y a 2 mois pour préparer les vacances, il y a 1 mois pour les vivre et il y a 2 mois pour les raconter. Bon, alors est-ce que vous avez commencé à préparer les vôtres ?
Alors écoutez, moi j'en rentre parce que vous savez très bien, les enseignants, nous sommes connus pour avoir beaucoup, beaucoup de vacances.
Est-ce que vous faites ça vous-même avec les nouveaux moyens du bord ?
Je fais tout, à savoir que d'une part, j'ai préparé mes vacances avant, donc quand il n'y avait pas les nouveaux moyens du web. Donc ces vacances-là, je les ai préparées soit personnellement en me documentant et ensuite en allant chez des voyagistes, soit où j'avais l'habitude d'y aller, soit chez d'autres qui me faisaient des promotions.
Mais maintenant, voilà. Vous êtes votre propre voyagiste.
Oui.
Alors, c'est quand même, si vous voulez, sur la feuille de route, et je crois que c'est le terme est bien choisi, parce que même si on est dans le train ou en avion, on fait quand même de la route. Il faut mettre au début de la feuille de route la durée de vos vacances et le budget que vous y affectez.
Bon. Ah, tout à fait. Je suis d'accord avec vous.
Bon, ensuite, il faut savoir si vous retournez là où vous avez déjà pris des vacances et où ça s'est particulièrement bien passé, ou si votre désir de nouveauté l'emporte sur ce qu'on appelle la nostalgie. Il faut aussi que vous me disiez vos voyages. Alors, c'est du farniente, c'est du bronzage et de la plage, c'est de la pêche à la ligne, c'est la visite de monuments historiques, c'est la découverte de nouveaux pays.
C'est tout ça.
Alors, je vous signale quand même, chère Monique, qu'il va falloir vous activer un peu parce que les spécialistes sont d'accord pour dire que cette année, il y aura au moins 2 millions de Français en plus qui prendront des vacances par rapport aux chiffres de l'année dernière. D'autre part, je vous rappelle, parce que vous devez le savoir, qu'en juin et en septembre, vous avez des conditions préférentielles, qu'il y a beaucoup moins de monde et que le temps ne laisse pas à désirer. Hein. Donc, si c'est pour juin, il faut vraiment vous dépêcher. Et si c'est pour septembre, il ne faut pas mollir non plus.
On marque une petite pause sur RTL dans Allo Bouvard et dans un instant, la suite de votre conversation, Monique et Philippe. À tout de suite. Au 3210, la question de Monique, une auditrice de RTL et d'Allo Bouvard. Comment organiser ses vacances ?
J'imagine que vous allez consulter votre ordinateur, que vous allez faire des comparaisons, que après avoir regardé de très près les différents tarifs, vous chercherez l'avis des internautes, parce que, ça, c'est à double tranchant. Hein. On ne sait jamais si c'est des amis des commerçants ou si c'est d'authentiques clients. Hein. Alors, deux petits conseils pour finir. Si vous prenez l'avion, achetez des billets qui sont échangeables ou...
Ah oui, monsieur, ça, je le fais toujours.
Ou remboursable. Essayez, mais ce n'est pas donné, de prendre une assurance en cas d'annulation. Et puis alors, méfiez-vous des prix trop attractifs, surtout, alors, vous ne pratiquez pas l'échange d'appartements, non ?
Alors, écoutez, je suis, pour ce qui concerne l'échange d'appartements, le Airbnb, ce qu'on appelle l'économie collaborative...
Oui.
Eh bien, je vais vous dire que moi, je suis contre, entre guillemets, parce que je vois l'autre côté du miroir, parce que j'enseigne aussi en hôtellerie-restauration, et je vois le mal que ça peut faire.
Bon, n'en parlons plus. Alors, un dernier conseil, renseignez-vous quand même, parce que vous allez trouver un bon hôtel, je vous connais, hein. Renseignez-vous sur la distance entre l'aéroport et l'hôtel, parce que quelquefois, quand c'est trop éloigné, ça risque de fausser votre emploi du temps vacancier. C'est très bien, Internet, mais si vous passez un petit coup de fil quelquefois vous en savez davantage, et bon, ça coûte un tout petit peu plus cher, mais ça ne vous ruinera pas. Et puis demandez des photos aussi, vous savez. Sauf quand vous louez, par exemple, une petite maison à la campagne. Alors, vous demandez une photo de la salle de bain. Souvenez-vous, quand vous aurez en main le cliché, que la photographie a fait plus de progrès ces dernières années que la plomberie. Merci et bonnes vacances, ma chère Monique. Le livre de Patricia Faguet est étrange, mais on comprend dès la couverture de quoi il s'agit, puisqu'il s'intitule « Disparu sans laisser d'adresse ». C'est le sujet du livre, c'est votre passion et c'est aussi votre métier finalement. Hein,
c'est devenu un métier, c'est devenu un deuxième métier. Vous voyez que c'est un métier que j'ai créé finalement. Parce que je suis journaliste à la base, je suis journaliste d'investigation en télé. Et ça fait 25 ans que depuis mes débuts à Perdu de vue avec Jacques Pradel, je n'ai cessé d'aider les gens à se retrouver.
Bon, alors ensuite, vous aviez le virus de l'enquête, hein, parce que dès que quelqu'un a disparu, on essaie de savoir ce qu'il est devenu, de reconstituer sa vie. C'est un travail de romancier autant que de policier. Hein.
Ah, complètement, il faut être passionné par les histoires de vie et par l'enquête, évidemment.
Alors, c'est un phénomène de société, puisque, bon, de sources policières, et vous avez fait parler ces gens-là, on estime entre 700 et 5000 le nombre de disparus majeur sans laisser d'adresse chaque année.
Voilà,
c'est énorme, hein.
C'est énorme, oui. C'est le chiffre de disparus volontaires, parce qu'en tout, il y a 50 000 personnes qui disparaissent en France chaque année, parmi lesquelles on compte les disparitions inquiétantes, desquelles font partie les mineurs.
Alors, il y a le côté dramatique, bon, qu'on ne peut pas éluder. Il y a des gens qu'on ne reverra jamais et dont le décès paraît certain aux enquêteurs, hein. Mais il faut attendre 20 ans.
20 ans qui peuvent être réduits à 10 ans pour constater un décès judiciairement.
Et alors, vous citez le nom de quelqu'un que j'ai bien connu et qui devait venir dans une de mes émissions lorsqu'il a disparu sans laisser d'adresse. C'était un des deux frères ennemis, Teddy Vrignot.
Ah d'accord, incroyable.
Et jamais, jamais on a eu de ses nouvelles.
Non, jamais. Alors ça fait partie des grands mystères.
Est-ce qu'il avait préparé son départ et son exil?
Alors ça, typiquement, pour moi, c'est une disparition inquiétante. C'est-à-dire qu'il a disparu sans ses papiers, sans argent, et on n'a plus jamais eu aucune trace.
Et je crois que dernièrement, on l'a déclaré mort. Bon, et ça, c'était à la demande de la famille, c'est légal. Sauf que si jamais il revient, il faudra lui rendre son patrimoine.
Alors oui, s'il revient, il faudra lui rendre son patrimoine, exactement.
Mais dans l'état où il est aujourd'hui.
Ah, probablement.
S'il a été mal géré, ben bon, tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas disparaître. Hein.
C'est sûr, mais bon, ça serait quand même une bonne nouvelle qu'il revienne. Il faut voir le bon côté des choses.
Bon. Alors, aujourd'hui, c'est devenu votre métier. Vous enquêtez à la demande des familles.
Voilà, ça a toujours été mon deuxième métier, si on peut dire, parce que je continue à être journaliste sur des émissions, je réalise des reportages en télé. Et parallèlement à ça, quotidiennement, j'aide des gens à se retrouver depuis 25 ans. C'est une vraie passion.
Alors ça coûte cher quand on veut retrouver la trace de quelqu'un?
Alors moi, j'ai instauré quelque chose, enfin un service au résultat, on va dire. Ça n'est payant que si je retrouve les gens. Donc il faut compter entre 1 000 et 5 000 euros maximum.
Ah oui, quand vous retrouvez les gens, ils ne sont pas toujours d'accord, hein?
Globalement, ils sont toujours d'accord. J'ai très peu de refus. On va dire que dans 95% des cas...
Il n'y en a pas qui vous disent, mais de quoi vous vous mêlez?
Franchement, non.
Non.
Ça m'est arrivé, bien sûr, hein, mais ouais. Ça se compte sur les doigts de demain.
Il n'y en a pas qui vous disent, écoutez, bon, vous m'avez retrouvé, mais je vous en prie, ne dites rien à ma famille.
Non, ce qui m'arrive, c'est que les gens acceptent de se retrouver, mais que derrière, ils ne donnent pas suite. Ça, c'est assez courant, finalement. Mais bon, l'essentiel, c'est que les gens aient pu se retrouver, qu'ils aient pu s'expliquer, qu'ils aient la réponse à leurs questions, parce que le plus douloureux, c'est de ne pas savoir quand quelqu'un disparaît. Et même pour le disparu, il ne part pas le cœur léger, il part avec ses valises. Donc quelque part, et souvent, il n'est pas conscient d'ailleurs qu'il manque à ses proches ou qu'il a lui-même disparu. Il part parce qu'il a, il a fait le tour de sa vie, parce qu'il a envie de changer de vie. Mais quand on le retrouve, il est très heureux aussi.
Alors, quel est le profil social et psychologique d'un candidat à la disparition sans laisser d'adresse? D'abord, je note que c'est plus un homme qu'une femme. Hein.
Absolument, c'est plus un homme qu'une femme. C'est quelqu'un qui se sauve pour se sauver lui-même. C'est quelqu'un qui ne parvient pas à affronter certaines situations, des situations de séparation souvent, de divorce, d'endettement.
L'échec professionnel,
beaucoup d'échecs familiaux quand même. Et ce sont des personnes qui, inconsciemment, vont reproduire un schéma familial, une carence affective dans l'enfance. Ce sont souvent des personnes qui viennent de la DAS ou qui n'ont pas connu leur papa et qui vont reproduire ce schéma-là.
Ouais. C'est pas quelqu'un qui essaie, par exemple... de reconstruire une vie affective, mais à des milliers de kilomètres de son lieu de résidence habituel.
C'est même tout le contraire de ça. C'est-à-dire que bien souvent, on retrouve les disparus à quelques kilomètres seulement du lieu qu'ils ont fui. S'ils refont leur vie, ils vivent en général chez une compagne, mais ne se remarient pas. Et d'où la difficulté de les retrouver. C'est-à-dire qu'ils ils n'apparaissent pas sous leur nom. Ils sont cachés, entre guillemets, inconsciemment, chez une compagne. Donc ils vivent sous l'identité de leur compagne.
Alors, autre exemple qui a beaucoup défrayé la chronique, Dupont de Ligonnès. Là, c'est autre chose.
Oui, c'est autre chose. Alors, pour le coup, c'est une disparition inquiétante. Donc, moi, je ne m'occupe pas des disparitions inquiétantes, hein, qui sont très graves, pour lesquelles il faut faire une déclaration.
Alors, attendez, quelle différence font les gendarmes ou les policiers, qui sont les premiers avertis, entre une disparition inquiétante et une disparition qui ne l'est pas?
Alors, une disparition inquiétante, elle concerne un mineur déjà, ou un majeur protégé, c'est-à-dire quelqu'un qui va être sous tutelle ou curatelle, qui va être malade, dépressif, atteint de la maladie d'Alzheimer, et qui va disparaître dans des circonstances inquiétantes, c'est-à-dire sans son portable, sans ses papiers, dont les mouvements bancaires ne sont plus enregistrés, voilà, il n'y a plus aucun signe de vie. Alors qu'une disparition volontaire, c'est clairement un choix délibéré.
Dans le cas de Dupont de Ligonnès, il s'agit là d'un meurtrier qui a pris la fuite. C'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une disparition inquiétante pour le coup, hein, pour laquelle une enquête de police est en cours. Et c'est quelqu'un qui a certainement en plus anticipé, évidemment, ses faits, puisqu'il a mis une semaine à disparaître quand même. Il a vécu d'hôtel en hôtel et on l'a retrouvé aux dernières nouvelles dans le sud de la France.
Est-ce que vous avez la curiosité parfois de vous informer de la façon dont s'est déroulée ce que j'appellerais la troisième vie? Parce que, bon, il y a eu la première qui ne devait pas être satisfaisante. La deuxième qui a eu lieu très loin de la première. Et puis, grâce à vous, on renoue avec la famille, les amis. Et là, il y a une troisième vie. Comment elle se passe?
Alors, là, c'est joli ce que vous dites. La troisième vie, je pense qu'elle apaise tout le monde. Même si les gens ne donnent pas suite, ce qui arrive souvent, tout le monde est apaisé, puisque les gens savent ce qui s'est passé et peuvent se reconstruire tranquillement.
Mais est-ce qu'il y a des exemples de gens qui ont renoué avec leur famille et ça s'est bien passé?
À plein, c'est la majorité quand même. Et d'ailleurs, j'ai une très belle histoire que je raconte dans mon livre, qui est probablement une de mes préférées. C'est l'histoire de Carole, qui est le fruit d'une histoire d'amour entre une Française et un soldat américain de l'époque des bases de l'OTAN, qui va la reconnaître à sa naissance parce qu'il a été contraint par les autorités américaines, mais il était jeune. Et à la fermeture des bases, il a fallu qu'il reparte aux États-Unis sans sa fille et sans même avoir pu mettre un visage sur sa fille puisqu'elle est née entre-temps.
Et alors, bon, là, je pense aux femmes dont le compagnon a subitement disparu. Au bout de combien de temps peut-elle aller au commissariat pour faire une déclaration d'absence?
Alors, s'il a disparu dans des circonstances inquiétantes, il faut y aller tout de suite.
Tout de suite.
Ah oui, il ne faut pas perdre de temps, bien sûr.
Bon, mais s'il n'est pas rentré de la nuit alors qu'il était coutumier du fait, elle ne s'inquiète pas. Hein.
Je ne pense pas, non.
Non. Bon. Alors, on vient vous voir et on vous confie un dossier. À partir de quoi vous déclenchez votre enquête? Comment l'amenez-vous, cette enquête?
Alors déjà, il faut que je sente que la demande est bienveillante. Il faut que je sente qu'elle soit motivée par des motivations saines, qu'il n'y ait pas quelque chose de tordu derrière ou un désir d'héritage ou de régler une succession, voilà, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Et à partir de là, bah, je vais poser des questions aux gens, je vais leur demander quels sont les éléments dont ils disposent sur la personne disparue, est-ce qu'ils ont le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, une dernière adresse connue, et à partir de tous ces éléments-là, je vais commencer à creuser. Dans la plupart de mes enquêtes, d'ailleurs, je démarre avec un seul prénom.
Mais est-ce que vous allez voyager ? Est-ce que vous allez aller personnellement, physiquement, sur la piste d'un disparu ?
Bien sûr, je me déplace, je me rends à la dernière adresse connue, j'essaie de retrouver des personnes encore présentes, je me déplace dans les archives aussi beaucoup, archives départementales, archives municipales, dans les mairies. Ouais, c'est une vraie enquête de terrain.
Et est-ce que les gendarmes et les policiers ne vous reprochent pas de leur faire une concurrence déloyale ?
Alors, je ne pense pas. J'ai même des gens qui s'adressent à moi sur le conseil de la police. Donc, je n'ai jamais été une concurrente. Je n'ai jamais travaillé d'ailleurs avec la police non plus. D'autant qu'il n'y a plus, vous savez, de recherche dans l'intérêt des familles. Cette procédure a été supprimée en 2013. Donc, je pense qu'au contraire, je suis là pour pallier à une carence administrative.
Bon, cela dit, vous prenez des risques parce que si on ne vous rétribue que lorsque vous avez retrouvé quelqu'un qui a tout fait pour qu'on le retrouve pas.
Non, mais les gens ne font pas tout pour qu'on les retrouve pas. Je pense que c'est même plutôt le contraire. Les gens sont en quête d'une preuve d'amour et quand on les retrouve.
Jusqu'à dire qu'ils laissent volontairement quelques indices.
Pas loin.
Ouais, là, vous diminuez vos mérites. Hein. Voilà, alors c'est un livre, je vous l'ai dit, étrange, passionnant, mais qui rend un peu triste. Parce que finalement, c'est un livre qui est rempli par des vies ratées. Et ça, c'est jamais très gai. Mais c'est bien raconté et par un témoin de première main. Merci Patricia Fayet.
Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui, Philippe Bouvard. On se dit, je ne sais pas, par exemple, samedi à 11h30 sur RTL.
Ben oui, c'est une idée. Notez-le, j'en fais de même.
C'est noté.
Et puis, je demande également à tous ceux qui nous ont écoutés de revenir. Hein, on ne va pas se quitter comme ça. Bon, je suis un homme d'habitude.
Donc à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir Virginie.
Au revoir Philippe. Tout de suite, on fait un point sur l'info et juste après, vous aurez rendez-vous avec le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. RTL, il est midi et demi.